Donc Bertrand, c'est à toi que maintenant, vers toi que je me tourne, pour que tu nous éclaires sur ce rapport entre effectivement le handicap, la maladie, la douleur, la souffrance qui quand même nous intéresse ici.
Alors j'aimerais proposer là un petit panorama des déséquilibres anthropologiques que nous montrent douleur et souffrance. Avec un premier type de déséquilibre, bon, évoqué un petit peu par Claire déjà, c'est le fait que l'homme peut être isolé et déshumanisé par la douleur. Je partirai d'une formule magnifique de René Le Riche, chirurgien, qui en 1936 dit « La santé, c'est la vie dans le silence des organes ». La santé, c'est la vie dans le silence des organes, ça veut dire que c'est lorsque nous sommes dans la douleur, lorsque nos organes crient, que nous découvrons a posteriori combien c'est bien d'être en bonne santé. Mais la santé ne s'expérimenterait pas directement, mais négativement a posteriori. De la même façon, c'est quand on a perdu quelque chose ou quelqu'un qu'on se rend compte de la place qu'il prenait pour nous. Si la santé, c'est la vie dans le silence des organes, c'est une vie où l'on peut dire qu'on est un avec soi-même, où l'âme et le corps semblent unifiés en un même parcours fluide. La douleur, elle, c'est ce qui va me rappeler la scission potentielle entre le corps et l'esprit. Parce que l'esprit doit soudain expérimenter en lui quelque chose qui s'impose à lui, ce qu'en philosophie on pourrait appeler une passivité. Il y a une passivité en nous. Vous avez encore une fois un organe qui crie, votre tête vous vrille les naseaux, votre foie vous transperce de douleur. Et on peut dire à ce moment-là que la souffrance ou la douleur est une expérience morcelante. Une expérience morcelante. Ce qui était un organisme unifié est maintenant une sorte de récapitulation d'organes plaqués les uns à côté des autres. Et Hegel, qui est un très grand philosophe, et là je reprendrai un petit peu Robert qui disait que les grands philosophes sont clairs, Hegel n'est pas toujours clair, mais ça reste un grand philosophe, Hegel nous dit « Le commencement effectif de la maladie consiste en ceci, que la partie, le système singulier, acquiert une subsistance à l'encontre du soi, un seul rouage en lui se fait centre. Un seul rouage se met à faire centre. » Ça veut dire que physiquement et psychiquement, l'organe vous travaille, vous ne vous mettez qu'à penser, à ne penser qu'à lui, et vous êtes accaparé par cette partie de vous-même qui était jusqu'à présent invisible. Alors on trouve ça dans il y a un magnifique texte qui est en réalité le texte d'une petite bande dessinée d'un auteur qui s'appelle Wilhelm Busch, qui n'a rien à voir avec cette famille américaine que vous connaissez certainement. Là, il s'agit d'un auteur allemand du 19e siècle qui a fait une bande dessinée très rigolote. Ça fait partie des premières bandes dessinées, puis ça date de 1883, je crois, et qui s'intitule « Baldwin Balaam, le poète contrarié ». Alors, pourquoi il est contrarié ? Parce qu'il a une rage de dents abominable. Et il va nous, on nous montre le personnage au fur et à mesure de ses aventures, il est très mal, il essaie de trouver de l'aide à droite ou à gauche, et il y a une petite explication au bas d'un dessin qui dit « À peine ressent-on le premier élancement, à peine remarque-t-on le taraudement bien connu, les poussées, les soubresauts et le tapage interne, que c'en est fini des affaires mondiales ». Oubliez les cours de la bourse, les impôts et les deux et deux font quatre. En un mot, toutes les choses de la vie qui d'habitude ont leur réalité et leur importance deviennent soudain inexistantes et sans intérêt. Oui, même le grand amour vacille, on en oublie le prix du beurre, car l'âme se resserre au trou étroit de la molaire. Magnifique. Donc de manière humoristique, Wilhelm Busch nous montre que la totalité de la réalité peut s'évanouir, que même les choses qui jusque-là faisaient partie de nos intérêts premiers disparaissent. Donc il y a une contamination de toute l'existence sociale de l'individu. C'est ça qu'il faut voir, c'est que la douleur ne se contente pas d'altérer notre relation à notre corps, mais elle contamine la totalité de notre rapport au monde. Et c'est ce qui crée la difficulté dans cette volonté de clarifier entre souffrance et douleur. Parce que ça sous-entendrait qu'on peut isoler ce qui est purement physique, donc de l'ordre de la douleur. Donc Robert a donné de très bons exemples avec on a mal à la jambe, si on est à l'hôpital et qu'on a une douleur, on se dit ça c'est physique. Et puis si notre copine ne vient pas nous voir à l'hôpital, ça c'est de la souffrance. Sauf que on se rend compte que si notre copine ne vient pas nous voir, on a plus mal physiquement que si elle vient nous voir. Et si elle vient nous voir, même le mal physique peut s'amenuiser. Et inversement, si notre copine ne vient pas, ça peut aussi produire des effets. Parfois, on peut produire des maux de tête par soi-même. Alors, on appellera ça des problèmes psychosomatiques. Mais ça veut bien dire que même ce qui est d'ordre affectif produit dans le corps des douleurs réelles. Hein, le psychosomatique ne veut pas dire que c'est le malade imaginaire. Et donc, ce croisement entre les deux fait qu'il y a une opacité et que... Claire a cité cet article de Ricoeur sur la souffrance et la douleur, et Ricoeur dit que ce sont des idéotypes, souffrance et douleur. Idéotype, un idéal type, c'est quelque chose qui est très clair sur le papier. Un sociologue comme Weber avait isolé ainsi des manières de penser le réel en le découpant. Mais dans la vie, c'est mêlé, c'est mélangé. Douleur et souffrance sont mélangées, d'où la difficulté de séparer les deux. Donc je disais que la douleur pouvait nous obnubiler au point de faire disparaître nos intérêts les plus évidents. Et puis là, en particulier, on est face à une douleur de dents qui font partie de ce qui a longtemps taraudé l'humanité. Faut se rappeler qu'au XIXe siècle, le dentiste, c'est le monsieur qui vient au village et qui vous arrache les dents avec une pince, sans anesthésie. C'est ça un dentiste. Donc vous imaginez à quel point les douleurs aux dents faisaient partie des choses terribles. Même au XXe siècle, alors j'en veux pour preuve Jacques Brel, qui, comme vous le savez, est un athée revendiqué, et qui, dans une de ses chansons, qui s'appelle « La statue », va jusqu'à dire, alors je ne vais pas vous la chanter, mais je vais vous dire le texte, « Moi qui n'ai jamais prié Dieu que lorsque j'avais mal aux dents ». La douleur nous empêche... parfois de joindre les deux bouts. Ça, c'est une belle formule de Lévinas. Il nous empêche de joindre les deux bouts. Et puis, inversement, parce que là, on est du point de vue de celui qui souffre, mais il y a les soignants qui s'occupent de la personne qui souffre. Mais si on les soignants et les proches, le regard n'est pas nécessairement amène, parce que celui qui souffre fait peser sur moi une responsabilité, et il peut y avoir une aspiration à s'en décharger d'une manière ou d'une autre. Et on sait que dans le contexte médical, plus une personne est bruyante, plus elle est disqualifiée. C'est typiquement le malade qu'on n'a pas envie, que les médecins n'ont pas envie d'aller voir, ou les infirmières, que les aides-soignants n'ont pas envie d'aller voir, c'est celui qui hurle le plus. Et les médecins eux-mêmes, alors là, je tiens ça d'un médecin, Nicolas Danziger de la Salpêtrière, qui dit que les médecins sont les champions de la sous-estimation de la douleur. Alors quand il dit ça, ça veut dire aussi que les infirmières sont meilleures et les aides-soignantes sont meilleures pour estimer la douleur que les médecins, parce qu'elles côtoient davantage cet aspect affectif chez les patients. Or, la douleur qui n'est pas écoutée, c'est quelque chose de terrible. Robert ne m'en voudra pas de citer un poète italien, Pavese, qui disait, dans Le métier de vivre, « La plus atroce offense que l'on puisse faire à un homme, c'est de nier qu'il souffre. » Et dans le monde hospitalier, c'est malheureusement quelque chose qui peut arriver. Alors, le monde hospitalier est aussi traversé par des injonctions contradictoires. On a cette obligation d'efficacité, et pour être efficace, du coup, on est moins attentif à la singularité des patients. Après ce premier point, en parlant de l'homme un peu isolé par la douleur, je voudrais reprendre la main en disant que les hommes aussi sont là pour aider celui qui souffre. Et là, dans un deuxième point, on peut parler des tentatives humaines pour donner du sens à la douleur. Alors, tentative déjà de l'ordre de la médecine, du discours médical, qui essaye de penser la douleur, alors tout d'abord comme un sens défensif de l'organisme, qui donnerait une information objective et utile. Là, on était dans une conception qu'on peut dire finaliste de la nature. L'idée que la nature ne fait rien en vain, donc s'il y a de la douleur, c'est qu'il y a un but, et ça serait une sorte de détecteur qui permettrait à l'espèce de survivre. Alors il y a dans cette lecture finaliste une certaine naïveté. Et au XXe siècle, on a un petit peu remis en question cette lecture comme sens défensif. Jacques Sarano disait par exemple que la douleur n'est pas une fonction, mais une lésion subie par une fonction. Alors ça veut dire que ce n'est pas prévu par la nature, mais que notre corps utilise des canaux qui sont ceux d'autres sens pour transmettre quelque chose qui est de l'ordre de la douleur. Mais que la douleur peut nous tromper, la douleur n'est pas nécessairement très bonne pour le diagnostic, et puis quand elle avertit, c'est souvent trop tard. Donc ça n'est pas cette lecture d'une douleur qui serait utile est quelque chose dont on est un peu revenu. Parmi les discours qui permettent d'entourer la douleur et d'entourer la personne qui souffre, il y a le discours social, le discours culturel, et qui va modifier cette douleur. J'évoquais le cas de la copine qui vient vous voir et qui fait que votre douleur, vous allez la ressentir moins forte. Eh bien, c'est la même chose avec le contexte social, la manière dont une société pense ce qui lui arrive, et il y a des douleurs qui ne sont pas les mêmes selon les pays. On sait que les douleurs de dos surviennent beaucoup plus souvent dans les pays industrialisés que dans les régions dites en voie de développement. Ça veut dire aussi que nous en avons plein le dos de cette société de performance. Et c'est une manière pour notre dos de se rappeler, de rappeler cette chose-là. Un médecin américain faisait la remarque suivante. Si nous restons en Chine assez longtemps, nous apprenons à accepter les choses et notre pression sanguine tombe. Les Chinois en Amérique apprennent la protestation et la non-acceptation, leur pression sanguine monte. Donc, manière de comprendre que ce qui nous semble objectif et physiologique peut être repris par quelque chose de social, de quelque chose de culturel, et que la question de la douleur n'est pas du tout si simple et à prendre de manière objective. Un autre exemple que je trouve très parlant, c'est dans une équipe de soignants à la Salpêtrière, encore une fois, qui s'occupait de l'accouchement d'une jeune béninoise qui arrivait de son pays. C'était son premier enfant. Et l'accouchement se passe très bien. Elle a eu une péridurale. Voilà. Et le lendemain, elle est tordue de douleur dans son lit toute la journée, recroquevillée. Et là, l'équipe ne comprend pas ce qui se passe. C'est bizarre ce qui se passe. Et il a fallu réfléchir un petit peu, il a fallu aussi un travail qui dépasse l'aspect physiologique des choses, et comprendre que cette jeune fille, elle avait toujours assisté dans son village à des accouchements où des femmes souffraient devant elle, et c'était une manière d'acquérir le statut de femme, justement, de passer de la fille au statut de femme. Il fallait passer par cette souffrance. Donc cette souffrance avait un sens culturel, et c'est un peu comme si elle remimait cette souffrance pour devenir elle-même une femme. Alors, ce n'était pas consciemment pensé, mais dans son corps, c'est quelque chose qu'il a travaillé. Donc, encore une fois, nous voyons que la douleur n'est pas un phénomène si objectif, si physiologique que l'on pourrait croire. Troisième point, le fait que cette modernité occidentale qui est la nôtre s'est donné les moyens de pouvoir fuir la douleur le plus souvent. Notamment au XIXe siècle avec le développement de l'anesthésie, XXe siècle, développement des antalgiques. Donc un certain nombre de douleurs que connaissaient les humains ont disparu, et au point de développer ce qu'on pourrait appeler une civilisation de l'algophobie. Nous sommes dans une civilisation de l'algophobie, c'est-à-dire que la douleur, c'est presque pire que la mort. On ne veut pas souffrir, parce que la médecine nous a habitués à pouvoir résoudre les problèmes de douleur et de souffrance. Résoudre le plus souvent, sauf que là où la médecine se prend les pieds dans le tapis, c'est quand elle se trouve face à des patients qui ont ce qu'on appelle des maladies chroniques, ou alors ce que les médecins appellent, mais c'est digne de Molière, des maladies fonctionnelles. Quand un médecin vous dit « vous avez une maladie fonctionnelle », c'est qu'il ne sait pas ce que c'est. Mais vous avez mal. Et la médecine n'arrive pas à résoudre le problème. Et toute la difficulté, c'est comme le discours général nous a habitués à déconnecter nos douleurs d'un discours culturel, d'un discours religieux qui aidait à les porter, que maintenant qu'on se trouve, que certains se trouvent sans le soutien de la médecine, ils n'ont plus rien. C'est ça, c'est une des souffrances de notre époque. Ce sont les personnes qui souffrent de maladies chroniques et pour lesquelles ils ont l'impression d'avoir été trompés, finalement. On leur avait vendu une médecine qui pouvait tout soigner, tout guérir, et puis là, ça ne marche pas. Et puis, quatrième point sur lequel je terminerai, donc, c'est l'idée qu'il y a une singularité dans la douleur qui amène des chemins de traverse qui pourraient vraiment être inattendus. On a tellement été habitué à ce discours de la douleur comme un mal, au point d'ailleurs que dans les hôpitaux, s'était développé un programme zéro douleur. On est revenu depuis, parce qu'on se dit que non, c'est pas l'objectif finalement. Je voudrais vous lire la première page du livre de Fritz Horn, qui s'appelle Mars. Alors, c'est pas un livre de science-fiction. Mars, c'est parce que le personnage est né, enfin, c'est autobiographique, hein, il est né au mois de mars et c'est censé être un mois de mélancolique. Début du livre, un vrai coup de poing dans la figure. Je suis jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps dont il est bien probable que je mourrai prochainement, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme dont je ne puis dire qu'une chose, c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Je ne veux pas prétendre ainsi que le cancer soit une maladie qui vous apporte beaucoup de joie. Cependant, du fait que la joie n'est pas une des principales caractéristiques de ma vie, une comparaison attentive m'amène à conclure que depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois. Depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, vous avez quelqu'un qui a une trentaine d'années, mais qui n'a pas eu l'adolescence perturbée par des conduites à risque, hein, ou des addictions. Il a parfaitement été docile, il a obéi à cette éducation bourgeoise de ses parents, et pour lui, il comprend enfin que c'était une éducation totalement sclérosante qui misait sur la reproduction à l'identique de l'individu. Reproduire le modèle des parents à l'identique. Donc ne pas pouvoir développer un tant soit peu sa singularité. Et le cancer qui se déclare, c'est une sorte de sonnette d'alarme qui l'amène à pouvoir enfin assumer son identité propre face à sa famille. Et même si il va quitter, ce cancer lui fait quitter plutôt les rails d'une vie qui était toute tracée, elle est un révélateur. J'aimerais reprendre ici un concept développé par Cynthia Fleury, parce qu'on peut dire que là, Fritz Horn, jusqu'à 30 ans, il a vécu en étant remplaçable. Et le cancer qui se déclare l'a fait entrer dans une vraie vie, dans une vie où il devient irremplaçable. Et on devient irremplaçable quand nous sommes dans une vie où le temps redevient créateur. Et c'est ce qui lui arrive. Donc il ne va pas vivre très longtemps, mais ces années-là sont infiniment supérieures à tout ce qu'il a vécu précédemment. Alors il ne s'agit pas de valoriser la maladie, la douleur coûte que coûte, mais d'être un peu plus raffiné dans notre jugement par rapport à la douleur que simplement la considérer comme le mal à abattre. Et c'est un peu le problème de notre société. Donc j'arrive en conclusion et puis on reprendra un certain nombre de choses ensemble. Mais il me semble très important de dire que la douleur, la souffrance font partie des conditions d'une vie éthique normale. Et qu'une vie éthique anormale, c'est finalement ce que nous décrit Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, qui est une société où on a éradiqué la douleur et la souffrance. On a éradiqué la souffrance parce que les gens sont conditionnés à aimer la situation dans laquelle ils vont être dans la société. Et puis, ils ont ces petits cachets de soma, hein, cette espèce de produit, qui, dès qu'ils ont une petite déconvenue, leur permet de voir les choses de manière optimiste. Et vous avez un des personnages, alors humour de Aldous Huxley, qui l'a appelé Bernard Marx, parce que c'est un personnage un petit peu atypique et un petit peu, qui n'arrive pas à supporter cette société. Il est un petit peu à côté. Et il dit, à un moment, il refuse de prendre sa dose de soma, et il dit « Je préfère être moi-même, dit-il, moi-même est désagréable, et non un autre, quelque gai qu'il soit. » Donc, nous ne devons pas vouloir fuir douleur et souffrance à tout prix. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que notre vie ait une certaine intensité. Et en revanche, vouloir éradiquer douleur et souffrance, ce serait obtenir une vie totalement abrasée. Une vie totalement abrasée. Et c'est ce spectacle effrayant qui est celui du meilleur des mondes. Et quand Foucault nous parle admirablement de l'utopie, c'est aussi de ça qu'il parle. Il nous parle d'une utopie. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer cette utopie en voulant une société où dès qu'il y a une souffrance, on va utiliser une seringue pour l'abréger. Donc ce sont des exemples, l'exemple de Fritz Horn qui peuvent sembler extrêmes par rapport à des personnes qui n'ont pas une souffrance dans la vie très importante, mais il n'empêche que ça nous fait comprendre que la douleur et le plaisir ne sont finalement pas des absolus. Il me semble que ce qui est beaucoup plus important pour penser l'homme dans sa complexité, c'est sa recherche du sens. Essayer de trouver du sens. Alors c'est vrai que dans la souffrance, on peut perdre un petit peu ce sens, mais on peut avoir des situations où on accepte une certaine douleur pour peu que la vie ait encore du sens pour nous. Et parmi les gens avec qui je travaille, notamment en soins palliatifs, j'ai moult exemples de ce type. Un monsieur qui avait une forte souffrance, il était en soins palliatifs, en fin de vie, et il dit à son médecin, est-ce que vous pouvez diminuer un peu la dose de morphine que vous me mettez, de manière à ce que j'ai un peu mal encore, mais que je garde la lucidité pour pouvoir lire La recherche du temps perdu de Proust. Toute ma vie, j'ai voulu lire cette série de livres, j'ai jamais eu le temps, maintenant je veux le faire. Donc maintenez-moi un peu de douleur pour que j'arrive à lire le livre. Vous voyez, bien sûr qu'on préférerait ne pas avoir de douleur, mais parfois on préfère choisir un peu de douleur que l'éradication totale. Parce que les patients dont on éradique totalement la douleur, ils ont l'impression de ne plus exister. Ils ont l'impression de ne plus avoir de corps, d'être un peu en lévitation. Et là, ça crée un mal-être terrible. Donc voyez en quoi ces situations sont paradoxales, nous montrent des déséquilibres dans la manière de penser ce qui nous semblerait assez simple, de dire voilà, la douleur c'est pas bien, le plaisir c'est bien, mais on voit que l'humain est un être très complexe et que ces choses peuvent se mêler.
Merci.